Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Prague International. Voici les titres. Lundi, plus de 11 000 nouveaux cas de coronavirus ont été dépistés en République tchèque, qui enregistre également un nombre record de cas graves de Covid-19. Les patients tchèques pourront être accueillis dans les hôpitaux en Allemagne. Le port du masque de qualité supérieure sera obligatoire dans les transports en commun et dans les magasins à partir de jeudi. 11 233 nouveaux cas de Covid-19 ont été dépistés en Tchéquie lundi, soit environ 2300 de plus que la semaine précédente. Le nombre de patients pris en charge aux soins intensifs a atteint un nouveau record. Il s'élève à 1329 pour quelque 6500 hospitalisations en tout, un chiffre qui augmente également depuis plusieurs jours, selon les données publiées mardi matin par le ministère de la Santé. La République tchèque est signale actuellement 121 000 cas actifs de Covid-19, soit le nombre le plus important enregistré depuis octobre dernier. Plus de 19 500 décès liés au coronavirus sont à déplorer dans le pays, tandis que plus d'un million de personnes ont guéri de la maladie depuis le début de la pandémie en mars dernier. Les capacités d'accueil des unités des soins intensifs et de réanimation sont presque épuisées, entre autres en raison du manque de personnel qualifié, a fait savoir ce mardi l'adjoint au ministre de la Santé, Vladimir Tcherny. Selon lui, 15% des capacités d'accueil des soins intensifs, dont 169 lits pour les patients Covid, sont actuellement disponibles dans l'ensemble des hôpitaux tchèques. Compte tenu du nombre toujours croissant de nouveaux cas de contamination, ses capacités d'accueil pourraient baisser à moins de 5% d'ici 15 jours ou 3 semaines, selon les prévisions du ministère de la Santé. Le coordinateur des soins intensifs pour Prague, Tomáš Vymazal, a déclaré que les autorités sanitaires avaient organisé à ce jour le transfert de 450 patients entre régions. Et les patients tchèques atteints du Covid-19 pourront désormais être pris en charge par les hôpitaux en Allemagne. L'information a été communiquée ce mardi par Petr Kulhánek, président de la région de Karlovy Vary, particulièrement touché par l'épidémie et dont les hôpitaux sont surchargés depuis plusieurs semaines. Petr Kulhánek a précisé que la Saxe avait proposé d'accueillir 9 premiers patients tchèques. La capacité d'accueil des hôpitaux bavarois n'a pas encore été annoncée. Grâce à la vaccination, le nombre de soignants infectés par le Covid-19 a connu une baisse importante en République tchèque, a fait savoir ce mardi le chef de l'Institut des informations et statistiques sanitaires, Ladislav Dušek. Depuis fin décembre, le nombre de professionnels de santé infectés par le virus est passé de 9 000 à 2 700. D'après les données récentes, 70% des médecins et infirmières dans les hôpitaux notamment ont été vaccinés. Le gouvernement a annoncé que le masque de qualité supérieure de type FFP2 ou KN95, le masque en nanofibre ou le double masque chirurgical serait obligatoire, non pas à partir de mardi comme il l'avait signalé auparavant, mais à partir de ce jeudi dans les lieux publics à forte concentration des personnes, notamment dans les transports en commun, dans les hôpitaux et les magasins ou encore aux abords des arrêts de bus et de tramway. Les enfants de moins de 15 ans peuvent porter le masque chirurgical. Les banques alimentaires distribueront les masques aux personnes en situation de précarité. À compter du 1er mars, le masque de qualité supérieure sera obligatoire dans tous les lieux publics. Un petit garçon a été déposé lundi avant minuit dans la baby box installée à Collines, en Bohême centrale. D'après Ludwig Hess, fondateur en 2005 du réseau de boîtes à bébés en République tchèque, le nouveau-né, prénommé Vojtěch, est en bonne santé. Il s'agit du premier enfant ainsi recueilli depuis le début de l'année. Il existe à ce jour 79 boîtes à bébés en Tchéquie. 215 enfants y ont été déposés au cours des 16 dernières années, dont précisément 3 à Collines. Côté météo, nous profiterons d'une belle journée ensoleillée mercredi, jour de la fête des Matieilles. Les températures seront printanières et varieront entre 13 et 17 degrés. C'était les informations de Radio Prague International par Magdalena Hrosinkova. Très bonne écoute de la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous. Une annexe de l'ambassade de la République tchèque à Tel Aviv va être ouverte la semaine prochaine dans la ville de Jérusalem. On en parle en début d'émission avant de vous proposer la première partie d'un entretien au long cours avec l'historien français Pierre Monnet, auteur de la toute première biographie en français, donc consacrée à Charles IV, roi de Bohême et empereur du Saint-Empire. Bonne écoute de ce programme. Une annexe de l'ambassade de la République tchèque à Tel Aviv va être ouverte la semaine prochaine dans la ville de Jérusalem. Cette décision a été validée lundi en Conseil des ministres sur proposition du chef de la diplomatie, Tomáš Petříček. Plus de détails avec Alexis Rosenzweig.
La création de ce bureau de Jérusalem s'inscrit dans le cadre des efforts de la République tchèque pour approfondir et renforcer le partenariat stratégique entre la République tchèque et l'État d'Israël. Le bureau renforcera nos opérations en Israël, contribuera au développement des relations mutuelles et améliorera également la fourniture de services aux citoyens tchèques. C'est ce qu'a déclaré le ministre Tomáš Petříček. Selon lui, la présence diplomatique tchèque à Jérusalem renforcera la communication avec les bureaux du gouvernement israélien qui, à quelques exceptions près, sont basés dans la ville. Le nouveau bureau travaillera également en étroite collaboration avec le consulat honoraire, ouvert en mai 2018, et la Maison tchèque, le centre tchèque inauguré en novembre de la même année à Jérusalem par le président Miloš Zeman, qui prône depuis longtemps le déménagement pur et simple de l'ambassade de Tel Aviv.
Je m'efforcerai de persuader notre gouvernement de façon à ce que ce transfert puisse se réaliser. Mais vous savez très bien que dans le discours que j'ai prononcé à la Knesset, j'ai dit que je n'étais malheureusement pas un dictateur et que dans une structure démocratique, persuader quelqu'un pouvait durer un certain temps.
C'est ce qu'avait déclaré le chef de l'État lors de sa troisième visite en Israël. C'était fin 2018. Le président tchèque Miloš Zeman espérait alors emboîter le pas à Donald Trump, qui a œuvré pour que l'ambassade américaine s'installe à Jérusalem en mai 2018. Un seul autre État a sa représentation diplomatique officielle en Israël dans la ville sainte. Il s'agit du Guatemala. Et tandis qu'Israël a récemment tissé de nouvelles relations avec plusieurs pays, l'un d'entre eux, le Kosovo, a annoncé vouloir y ouvrir sa future ambassade. Cette annonce a immédiatement provoqué des réactions à Bruxelles, où un porte-parole a regretté cette initiative, je cite, « contraire à la position de l'Union européenne sur Jérusalem ». La diplomatie tchèque se veut, elle, plus prudente. Dans un communiqué publié ce lundi à Prague, il est affirmé que la création de ce bureau n'a aucun impact sur la volonté de la République tchèque de développer davantage les relations politiques et économiques avec l'autorité palestinienne, y compris la fourniture d'une aide au développement et humanitaire par l'intermédiaire de notre bureau de liaison à Ramallah. Fin de citation. L'annexe tchèque doit ouvrir dans la rue de Washington à Jérusalem-Ouest et un diplomate ainsi qu'un employé administratif y seront en poste. Depuis fin 2017, la diplomatie tchèque considère Jérusalem-Ouest telle que définie en 1967 comme la capitale israélienne, mais indique dans le même temps respecter la politique de l'Union européenne qui consiste à faire de Jérusalem la future capitale de deux États, israélien et palestinien.
Chapitre de l'histoire.
En 2020, les éditions Fayard ont publié « Charles IV, un empereur en Europe », un ouvrage que l'on doit à l'historien français Pierre Monet. Dans ce travail inédit dans l'historiographie française, on y découvre un roi de Bohème et empereur aux multiples facettes, à la fois lettré, grand voyageur, polyglotte, stratège des alliances matrimoniales destinées à consolider son pouvoir dynastique, mais aussi mécène et collectionneur de reliques. Un personnage qui est aussi l'auteur d'une biographie unique en son genre, une autobiographie unique en son genre, à son époque, puisqu'il l'écrit à la première personne du singulier. Directeur d'études à l'EHESS et directeur de l'Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales de Francfort sur le Main, Pierre Monet a répondu aux questions de Radio Prague International. Revenant d'abord sur son travail, ses recherches également, pour élaborer la toute première biographie en français de ce personnage historique majeur de l'histoire tchèque.
Oui, exactement. Voilà, le personnage n'avait jamais fait l'objet d'une biographie, même d'une étude un peu approfondie. Alors que, bon, il est quand même très lié dans son époque à l'histoire du royaume de France, hein, au XIVe siècle. Il était assez présent chez les chroniqueurs et dans le souvenir, disons, des historiens français au XVe siècle. Et puis après, voilà, il y a eu une sorte d'éclipse et il n'a été reçu et connu qu'à travers ce fameux manuscrit des grandes chroniques de France, pour le voyage de 1378, mais voilà, c'était plutôt une apparition un petit peu fugitive comme ça, et au fond, j'ai trouvé que à la fois l'époque et puis le personnage demandaient que on le fasse connaître au public français, un roi et un empereur en temps de crise, l'image, la figure d'une certaine Europe quand même qui se met en place au XIVe. Et puis une façon de gouverner, une culture politique qui, me semble-t-il, devait encore nous dire des choses 6 siècles plus tard.
Alors oui, en effet, hein, c'est exactement ce que j'allais vous dire. En fait, qu'au vu de son importance historique et notamment alors, de ses liens avec la France, c'est presque étonnant qu'il n'y ait pas eu un ouvrage un peu qui fasse date plutôt en français. Hein. Comment est-ce que vous avez conçu cette biographie ? On sait que l'exercice de la biographie peut parfois paraître à nos yeux aujourd'hui un exercice peut-être... comment dire, plus daté, mais en fait, c'est toujours quand même très intéressant de faire, d'envisager un personnage dans sa globalité. Comment est-ce que justement vous avez conçu un petit peu l'approche de Charles IV ?
Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question, parce que avant même de s'intéresser à un personnage, de le choisir, je pense que l'historien doit d'abord aussi se poser la question de la méthode, de l'utilité de l'exercice, surtout dans un temps où, vous le savez bien, les historiens sont très séduits par un autre type de récit historique, qui est d'abord très marqué par la vogue, la mode de l'histoire globale, hein, c'est-à-dire que on choisit des très grandes périodes, des très grandes régions, et donc voilà, on étudie l'histoire du monde, des circulations. Ça permet aussi de décentrer l'Europe, de la remettre un peu dans un contexte qui la sort d'une attention trop centralisée, trop européenne, comme on l'a eu pendant trop longtemps sans doute. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi dans un temps de grande histoire globale comme ça, choisir non seulement la focale sur un siècle, mais dans ce siècle-là, un seul personnage. Alors on retrouve là des interrogations qui ont été celles du XXe siècle, hein, à commencer par l'école des Annales, qui longtemps a tenu l'exercice biographique pour démodé d'un côté, de l'autre trop cadré, trop personnalisé, trop centré sur une seule perspective. Et il est vrai que de ce point de vue, le grand modèle que j'ai eu évidemment en tête a été le Saint-Louis de Jacques Le Goff. Naturellement, je ne prétends pas du tout avoir fait un ouvrage équivalent et qui puisse concurrencer quelque chose qui reste sous la plume de Jacques Le Goff comme tout à fait exceptionnel, mais sa méthodologie, c'est-à-dire au fond l'idée que on n'écrit pas une biographie pour écrire une biographie comme ça du premier jour de la naissance à la fin de la mort. Bon, ça c'est très bien, ça a une utilité, mais si l'historien veut aller un peu plus loin, je me suis inspiré de ses recommandations, des conseils que l'on peut lire dans l'introduction, notamment du Saint-Louis de Jacques Le Goff, c'est-à-dire de choisir un personnage qui ait une densité suffisante, une complexité suffisante aussi, qui ait laissé aussi suffisamment de traces pour que l'on puisse poser à son propos des problèmes généraux. Alors, ces problèmes généraux, ils me semblent être de deux natures, hein, tout à fait fondamentales. La première, c'est est-ce que Charles IV marque par la façon dont il se met en scène, dont il fait écrire, fait imager son action, est-ce que tout cela parle en faveur de ce que l'on peut appeler un processus d'individualisation ou d'individuation, c'est-à-dire est-ce que la personne en tant que personne commence véritablement à prendre des contours nouveaux au XIVe siècle, ce que je crois, et c'est une hypothèse que je développe dans le livre. Et la seconde dimension fondamentale, c'est de savoir si ce personnage marque une inflexion sur divers plans, et en particulier sur un plan politique, c'est-à-dire une manière d'être roi qui change par rapport à ce qu'on a connu jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, et aussi, à travers son action, une réorientation générale de la, on va dire, de la géopolitique, hein, de l'Occident de ce temps. Et la seconde hypothèse fondamentale que je formule est que, à travers lui, l'Est et l'Ouest de l'Europe se rapprochent, en gros, dans un axe Paris-Prague, qui permet finalement à cette Europe de commencer à se concevoir davantage dans un sens que l'on connaît plus aujourd'hui, c'est-à-dire une Europe plus ramassée, plus continentale, plus centrée sur elle-même, se coupant un peu de la Méditerranée, se coupant aussi davantage du monde byzantin, du monde orthodoxe. Voilà, et j'ai voulu par là essayer de proposer une autre perspective. Alors, évidemment, pour les auditeurs tchèques qui vont nous écouter, puisque vous êtes à Prague et, oui, et on a cette conversation, il est clair que, vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de biographies, beaucoup de travaux sur Charles IV en tchèque. Moi, je ne lis pas le tchèque, je suis incapable, voilà, de pouvoir recevoir tous ces travaux. En même temps, j'ai de bons collègues à l'université Charles de Prague qui m'ont orienté, hein, qui m'ont aussi fait visiter les bons lieux, etc. J'ai eu aussi un doctorant tchèque devenu docteur qui a beaucoup travaillé sur les relations entre Royaume de France et Royaume de Bohême. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, par chance, ce roi et empereur du XIVe siècle a bénéficié de nombreux éclairages venant d'autres régions que de la Bohême.
Alors, évidemment, parce que l'Allemagne, oui, l'Allemagne, hein, j'imagine, puisque, voilà, évidemment, il a été empereur de l'Empire romain à cette époque-là. Et forcément, il y a eu des textes en Allemagne. Et d'ailleurs, je pense notamment... je voulais revenir aussi sur le fait que, pour le coup, Charles IV, c'est souvent un particulier aussi, hein, parce qu'en dehors, en effet, des textes dans d'autres langues, c'était quand même le latin à l'époque, hein, donc qui prédominait. Et il a rédigé, hein, son autobiographie, La Vita Caroli. C'est un texte que vous avez traduit, hein, notamment avec votre collègue. Ça, ce n'était pas une chose courante à l'époque. Alors, peut-être, quelle était la destination et l'objectif de ce texte? C'était une manière de faire date? Et est-ce que c'était une façon, justement, vous parliez de la représentation de soi-même? C'est dans cette vision-là aussi, j'imagine, qu'il a écrit ce texte.
Tout à fait, hein. Merci d'attirer l'attention sur ce texte qui, comme vous l'avez dit, est tout à fait exceptionnel. Non pas qu'on ait une seule autobiographie royale au Moyen-Âge, d'autres rois, notamment en Aragon, en Suède, ont d'autres rois ont écrit sur eux-mêmes, mais pas sous une forme aussi aboutie, aussi structurée que le fait Charles IV dans cette Vita. Donc, document exceptionnel, absolument. Second élément qui peut éclairer aussi l'importance de ce texte, il décide vraiment, dans toute une partie du texte, d'employer la première personne du sujet, c'est-à-dire il parle en disant « je ».
Ah oui, c'est différent.
Voilà, ce qui est quand même très différent. Les rois de France, par exemple, sont tellement, si vous voulez, convaincus de la souveraineté et de l'excellence du titre de roi de France qu'ils choisissent de laisser les autres écrire sur eux, et donc le roi de France s'écrit à la troisième personne du singulier. Il a fait, il. Bon, et là on a un moi qui est tout à fait singulier. Le contenu aussi de cette vita m'a paru absolument extraordinaire, dans la mesure où c'est pas un récit tout à la gloire de Charles IV. Bien sûr, il s'en sort bien, il ne dit pas de choses méchantes sur lui-même, mais il dévoile des aspects que l'on ne trouve pas forcément ailleurs. Les relations difficiles parfois avec son père, Jean l'Aveugle, le roi de Bohême de la première moitié du XIVe siècle, donc venu du Luxembourg, qui a épousé la dernière descendante des Prémichlides. D'autre part, les difficultés qu'il a rencontrées dans les campagnes militaires en Italie, les difficultés aussi qu'il a eues à se réapproprier en quelque sorte un royaume de Bohême qu'il ne connaissait pas si bien que ça, qu'il a trouvé à ses yeux dans un état pas forcément formidable lorsqu'il y est revenu au début des années 1330. Et autre élément aussi qui m'a semblé important, ce sont des passages dans lesquels vraiment il dévoile quelque chose de très moderne lorsqu'il parle de ses rêves, de ses peurs, de ses doutes. C'est quelque chose qui, pour un roi, est tout à fait singulier. Alors, la fonction de ce texte, elle a toujours interrogé, et je ne prétends pas apporter une réponse définitive. Comme vous le savez, le texte s'arrête en 1346, c'est-à-dire au moment où il est élu pour la première fois roi des Romains, si l'on veut, futur empereur de l'Empire romain germanique. À cette date, il n'est pas encore roi de Bohême. Il n'est pas encore empereur, évidemment. Alors on peut se demander, mais pourquoi écrire un texte comme ça à la première personne pour raconter son itinéraire et s'arrêter avant tous les événements glorieux du règne, c'est-à-dire après tout ce qu'il va faire. Je crois qu'on a là quand même une clé d'interprétation de ce texte qui est un texte à la fois de jeunesse, un texte de position politique, d'étape, et au fond, qui annonce presque un programme qu'il va ensuite réaliser en tant que roi et empereur. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui m'a toujours semblé jouer sur plusieurs palettes de documents.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme, finalement, de conscience de son destin, même s'il ne sait pas, en effet, il ne peut pas prédire l'avenir, mais une espèce de préscience comme ça, où il sait qu'il a une destinée qui l'attend et il a besoin, en fait, de d'appuyer ce futur sur, justement, sur une sorte d'autobiographie, une réflexion sur soi-même.
Absolument, je crois que vous avez tout à fait bien dit finalement la fonction et le sens de cet écrit. Ce qui m'a beaucoup frappé en essayant de voilà d'approfondir ce personnage, c'est que il a une conscience précoce, sinon d'une grande destinée, au moins d'un destin royal qu'il va appuyer sur deux visions ou deux directions, une pour son royaume de Bohême. Je crois qu'il a aimé la Bohême, il a aimé sa ville de Prague, il a aimé être roi de ce pays.
Il lui a bien montré d'ailleurs à cette ville de Prague avec tout ce qu'il a laissé dans la pierre et dans les arts.
Absolument, et donc là je crois qu'il n'y a pas de doute sur ce plan. La deuxième direction, c'est ayant reçu le titre royal puis impérial du Saint-Empire romain germanique, l'idée que cette couronne a quelque chose de particulier. C'est un pouvoir universel à l'égal du pape, qui le place au-dessus des autres rois, hein, y compris en théorie du roi de France. Et je crois qu'il a voulu aussi appuyer cette souveraineté, ce caractère particulier de la couronne impériale. Et puis, ce destin, si vous voulez, un peu cette conscience d'un destin précoce, il faut la rapporter un peu à sa jeunesse. Je crois que les 7 années qu'il passe à Paris, hein, entre l'âge de 7 et 14 ans, ces 7 années-là ont été fondamentales parce que il y arrive, vous savez, comme le fils d'un roi de Bohême. Bon, certes, son grand-père a été empereur du Saint-Empire, mais enfin, personne n'imagine que les Luxembourg, appuyés sur l'Empire de l'Allemagne, de la partie germanique, s'étendant sur l'Italie, etc., et s'appuyant aussi sur le royaume de Bohême, n'imagine mal que les Luxembourg puissent à nouveau avoir un grand destin à travers lui, qui va durer à travers ses fils, et en particulier Sigismond au XVe siècle. J'essaie toujours de dire, voilà, imaginons Sigismond qui aurait eu des fils, qui aurait continué une grande politique dynastique, et au fond, imaginons ce qu'aurait été à l'époque moderne une Europe des Luxembourg et non pas une Europe des Habsbourg, voilà. Et donc, tout cela me semble être en germe dans la manière d'être roi pour Charles IV.
Et c'est avec cette musique datant de l'époque de Charles IV, roi de Bohême et empereur du Saint-Empire, que s'achève cette émission de Radio Prague International. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'actualité tchèque en français, ça continue également sur les réseaux sociaux. Je vous invite à consulter notre compte Twitter qui est actualisé tout au long de la journée, mais également notre page Facebook. Jetez un œil également aux photographies de notre compte Instagram. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent et ahoy.